Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Avec une population qui a franchi en 2011 la barre des 1,34 milliard d'individus, les autorités chinoises prennent très au sérieux les conséquences du réchauffement climatique sur leur économie. Le réchauffement climatique peut-il freiner la croissance économique chinoise ? La multiplication de catastrophes naturelles, imputables à l'action humaine sur le territoire chinois et dans le monde, a conduit en Chine à une prise de conscience de la gravité des enjeux et à une volonté politique nouvelle. Le changement climatique est un défi pour l'ensemble de la planète dans les décennies à venir, un avis partagé par les 190 pays présents à la dernière conférence sur le climat en décembre 2011 à Durban, en Afrique du Sud, dont faisait partie la Chine. Avec nous aujourd'hui à Canal Académie, l'académicienne et sinologue Marianne Bastide-Bruguière, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, pour son rendez-vous « Nouvelles de la Chine » sur notre antenne. Bonjour madame.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous pour évoquer la manière dont la Chine s'attaque à ses problèmes d'environnement sur son territoire, mais aussi comment elle se positionne sur ces questions d'intérêt général mondial. Alors, pour commencer, peut-être un constat alarmant, je cite en fait le ministre adjoint de l'Environnement en Chine. 5 des villes les plus polluées au monde sont chinoises. La pluie acide tombe sur un tiers du territoire. La moitié de l'eau de 7 des plus grands fleuves chinois est totalement inutilisable. Un quart de la population n'a pas accès à l'eau potable. Un tiers de la population urbaine respire un air contaminé, et ce n'est pas fini, moins d'un cinquième des déchets des villes est traité d'une manière écologiquement soutenable. Le constat est alarmant. Comment situer la gravité de ces problèmes à l'échelle mondiale ?
Les problèmes sont considérables. Ils sont même plus graves que ce que vous dites, parce qu'il y a plus d'un tiers de la population urbaine chinoise qui respire un mauvais air. C'est 90% de la population urbaine chinoise qui respire un air épouvantable. Et pour vous donner quelque chose de tout à fait récent, dans la nuit de dimanche à lundi, qui était la nuit du Nouvel An chinois à Pékin, du fait des pétards qu'on a l'habitude de faire claquer à cette occasion, la densité des particules nocives dans l'atmosphère a augmenté de 80%. Donc, à tout moment, par simplement les distractions des populations, et en général, l'air de Pékin est épouvantablement pollué. Donc la situation est vraiment très grave, mais elle est grave du fait du chiffre de la population que vous avez cité, du fait de l'étendue du territoire et de la portion de ce territoire qui se trouve dans des zones désertiques ou dans des zones très exposées à des changements, à des perturbations du climat. Et dans les 30 dernières années où ces perturbations ont été mesurées avec beaucoup d'exactitude, elles le sont en Chine depuis des siècles et des siècles. Il y a toujours un système d'observation des modifications de la température, du climat, etc., qui s'est mis en place à cause de la nécessité de nourrir une très grande population. Mais depuis 30 ans, l'observation est beaucoup plus fine, beaucoup plus scientifique. Et elle contribue d'ailleurs à la politique mondiale pour essayer de lutter contre le changement climatique. Et les observations sont très alarmantes. Mais ça n'est pas dû à un mauvais comportement de la population chinoise, du gouvernement chinois par rapport à d'autres gouvernements. C'est dû à l'immensité des problèmes, au sous-développement qui reste encore quand même un fait majeur dans ce pays. Mais des efforts très considérables sont engagés et sont engagés maintenant de façon vraiment énergique depuis, disons, 2005.
Depuis 2005.
Oui.
Mais ces questions d'environnement ont toujours quand même normalement suscité l'intérêt des populations. Sans parler des autorités, il y a ce rapport que vous venez d'évoquer avec l'agriculture pour nourrir les populations. Ça a toujours été un enjeu majeur, la sécurité alimentaire de la Chine.
Oui, ça a toujours été un enjeu.
Pour les Chinois eux-mêmes.
Ils ont
un rapport particulier là avec ce rapport à la nature justement, pour la protéger.
Oui, alors on dit toujours que par leur philosophie, ils considèrent que l'homme doit s'unir à la nature, doit suivre la nature et veiller à ne pas bouleverser l'équilibre de la nature. Bon, c'est vrai, du point de vue théorique, mais dans la réalité, à cause de la croissance de la population, il est arrivé de façon récurrente qu'on cultive au-delà du raisonnable, si je puis dire, en défrichant des régions, par exemple, boisées, ce qui ensuite entraînait une érosion des sols et la déperdition de beaucoup de terrains qui auraient été propices à l'agriculture. Et cette excessive utilisation des sols ou des ressources naturelles a causé bien souvent la chute des dynasties et, après avoir éliminé une partie de la population, non pas forcément par les armes, mais par les famines en général, on repartait dans un nouveau cycle. Il n'y a pas de doute que depuis 1949, par l'effort de développement économique du régime communiste, on a beaucoup épuisé les ressources naturelles. Et donc, vient maintenant un moment où il faut gérer mieux ces ressources naturelles. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les débats philosophiques chinois de ces 20 dernières années, est revenu ce thème de l'harmonie avec la nature. Certains disant, nous avons bouleversé notre harmonie avec la nature, il faut y revenir. D'autres disant, la nature, elle doit être au service de l'homme, il faut conquérir la nature, ce qui est la philosophie dite occidentale. Mais il y a un débat philosophique aussi là-dessus. La position du gouvernement chinois actuel, c'est que les désordres climatiques, les déperditions et nuisances et les dangers pour la population dépassent l'avantage économique qu'on tire d'une exploitation irrationnelle de la nature. Et donc, il faut faire un effort. Mais dans la pratique quotidienne des Chinois, ces habitudes... Bon, théoriquement, ils vous font des discours sur la protection de la nature. Mais quand vous les voyez se comporter, ils sont encore pires que les Français. En fait, ils gâchent, ils jettent. Dans le nord de la Chine, on n'a toujours pas de plombier qui sache faire des systèmes d'écoulement qui ne giclent pas partout. On perd l'eau, alors que c'est une région où on manque d'eau. L'eau est précieuse, mais on laisse, enfin, les robinets coulent. Et ça m'est arrivé encore tout récemment dans une université chinoise, un endroit où en principe on devrait être averti de ces problèmes-là. Et d'ailleurs, il y avait des grands écriteaux disant « ne mettez pas votre linge de toilette tant qu'il n'est pas sale » ou « linge sale », enfin des choses de genre là. Mais la douche coulait et j'ai signalé tout de suite en disant « il y a mais c'est vers de l'eau ». On m'a dit « oh, ben, ça ne fait rien, personne n'est venu réparer, j'ai essayé de réparer moi-même, avec peu de succès ». Mais si vous voulez, c'est vous dire qu'il n'y a pas encore cette conscience dans les gestes de tous les jours.
D'accord, ce n'est pas acquis.
Il y a encore beaucoup d'éducation à faire de ce point de vue-là. Et à l'échelon administratif, le problème c'est que le gouvernement central peut donner d'excellentes directives. Tout le monde peut, à la télévision, à la radio, dire « nous faisons attention à l'environnement, nous voulons protéger nos enfants contre les maladies ». Mais l'application, elle est lente à se faire, parce que il faut bien dire que la croissance économique est quand même le problème majeur. On veut améliorer le niveau de vie de la population et que les bénéfices immédiats comptent plus que la protection des ressources à long terme. Et ça, c'est long à faire entrer dans l'esprit des gens.
Alors, est-ce qu'il y a, d'après ce que je comprends, donc un décalage entre la prise de conscience quand même des autorités chinoises, là, qui, même si elles se fixent des objectifs assez ambitieux, et puis au niveau de tous les jours, de la vie quotidienne entre les populations, est-ce que la prise de conscience est la même ou pas encore? Parce que les populations peuvent s'inquiéter du risque sanitaire, des maladies, il y a des familles avec des enfants uniques, tout ça, ça doit jouer quand même.
Je dirais que tout le monde est inquiet,
d'accord,
mais les comportements réels,
d'accord,
ne sont pas au diapason des convictions philosophiques ou intellectuelles. Mais dans les villages chinois, il y a des endroits où l'eau est complètement polluée. Dans la campagne, si vous voulez, l'équivalent de l'Auvergne chez nous. Vraiment des endroits de la campagne profonde, où du fait du développement d'industries dans les villes environnantes, les eaux sont complètement polluées. Et les gens dans les villages ne peuvent plus boire que de l'eau en bouteille. Ce qui veut dire, un, que cette eau potable, elle est beaucoup plus chère que l'eau que vous tirez de votre puits. D'autre part, qu'il y a le problème de l'évacuation des bouteilles de plastique. Et que malgré tout, les gens se servent de l'eau des puits pour laver leur vaisselle.
Donc ils s'empoisonnent.
Donc
quand même.
Ils s'empoisonnent leur bétail. Ils ne peuvent pas les nourrir avec de l'eau des viands. Et donc il y a des maladies qui se sont déclarées et les questions de santé publique sont ressenties dans beaucoup d'endroits. Et il y a des révoltes locales de villages entiers contre la destruction de leur environnement. C'est un problème lancinant. Je me souviens, il y a 4 ans, on m'a emmené dans le centre de la Chine, dans un endroit dont les autorités locales étaient très fières parce que c'était à la campagne et elles avaient complètement refait l'habitat rural. Et on avait pour cela regroupé plusieurs villages et reconstruit une sorte de petite ville. Eux considéraient que c'était un village, ça avait 30 000 habitants, une ville avec des maisons assez bien construites et les gens avaient un logement relativement spacieux. Et c'était au milieu des champs. Et j'ai demandé, qu'est-ce que vous avez comme système d'évacuation des eaux usées? Ils ont ouvert des yeux ronds. Ils m'ont dit, mais rien du tout. Et toutes les eaux usées, toutes les ordures, allaient directement dans les champs.
Dans la nappe phréatique.
Dans la nature, sans rien. Hein, même pas un bassin d'épandage, rien du tout.
Ça n'avait pas été pensé.
Non, ça n'avait pas été pensé. On considérait qu'on avait fait beaucoup en construisant ces logements neufs. Mais il manquait des choses essentielles.
Il y a une équipe de chercheurs, de scientifiques chinois qui a demandé justement, je crois très précisément, il y a un mois ou deux, à ce qu'on s'occupe de cette gestion des eaux usées.
Mais cette question de la gestion des eaux usées, ça fait très longtemps que les Chinois scientifiques s'en occupent. Je me rappelle très bien, c'était en 1988, j'ai accueilli à l'École normale supérieure un géographe de l'École normale supérieure de la Chine de l'Est, l'Université normale de la Chine, qui venait spécialement en France, enfin j'avais arrangé qu'il puisse avoir un échange et être accueilli à l'École normale supérieure, pour apprendre les systèmes français de gestion des eaux usées. Et c'est pour la ville de Shanghai, où évidemment le problème est absolument considérable. Donc ce n'est pas une question qui est découverte récemment et à laquelle on s'attelle récemment. Il y a des endroits, par exemple à Shanghai, où le problème a été pris à bras-le-corps et où on a fait des progrès considérables. Et je dois dire que dans les époques historiques antérieures, par exemple à Pékin, il y avait un système d'égouts extraordinaire. De même que les Romains avaient des systèmes d'égouts et de circulation d'eau dans les villes tout à fait perfectionnés, les Chinois l'avaient aussi. Puis ça a été abandonné, laissé en désuétude, en réalité pendant tout le 19e siècle et une grande partie du 20e siècle. Et à Pékin, c'est maintenant qu'on recommence à faire attention à cela et à gérer aussi l'eau. Et des investissements considérables ont été mis depuis 2005 dans la meilleure gestion des ressources en eau.
Donc il y a une véritable prise en charge des problèmes.
Il y a un tournant.
Et il y a un tournant
parce
cette fois politique.
Si vous voulez, il faut penser aussi qu'il n'y avait pas d'institution en charge de ces questions.
Mais alors maintenant, il y a un ministère de l'Environnement.
Alors, on a créé un ministère de l'Environnement, mais ça ne suffit pas de créer le ministère. Je crois qu'on l'a créé en 2006 ou quelque chose comme ça. Mais il y avait des comités auparavant qui avaient été mis en marche. Mais il ne suffit pas de créer au sommet à Pékin des organes distingués qui sont en rapport avec les organes des Nations Unies. Ce qu'il faut, c'est à l'échelon local, provincial et plus bas, créer tout un appareil qui surveille, qui organise ces questions. Et tant que le problème de la gestion de l'environnement était livré aux différents ministères industriels ou au ministère de l'énergie, qui, eux, voulaient accroître les ressources industrielles, les ressources énergétiques, évidemment, ça ne procurait pas beaucoup de résultats. Donc, peu à peu, on met en place tout un système à la fois de gestion et un système de contrôle qui soit indépendant, parce que vous pouvez avoir des organismes qui vous donnent des résultats spectaculaires, et puis quand vous allez voir ce qui se passe réellement, c'est tout à fait différent. Et là, tout récemment, c'est depuis le mois de décembre, le gouvernement central passe des accords, des sortes de contrats, avec les gouvernements provinciaux sur des objectifs à atteindre. Et tous les ans, il y a des vérifications.
D'avoir des comptes.
Des vérifications par des agences indépendantes des résultats réels qui sont atteints.
Il y a une véritable volonté d'organiser tout ça. Ça fait partie aussi de la logique du plan quinquennal. C'est habituel peut-être dans la politique chinoise. Mais là, vous parlez d'organismes indépendants qui vont contrôler.
Si vous voulez, c'est quand même important. Des organismes qui sont indépendants de l'administration en charge de la gestion.
C'est nouveau ça, non?
Ça existe maintenant pour beaucoup de choses. Pour la gestion de l'éducation, on pratique de la même manière. Les systèmes de contrôle intérieur sur des questions techniques.
D'accord. L'évaluation,
beaucoup,
en fait.
Les évaluations se sont beaucoup perfectionnées.
Ce ne sont pas des contre-pouvoirs, mais des centres d'évaluation.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la politique générale de l'environnement, le gouvernement a affirmé la volonté de favoriser ce qu'ils appellent les organisations non gouvernementales, mais ce n'est pas tout à fait ce que nous entendons par des organisations non gouvernementales. En réalité, ce ne sont pas des organisations populaires, mais des associations civiles, enfin de la population civile, c'est-à-dire des organismes qui sont indépendants des fonctionnaires.
Voilà,
bien
de l'administration.
Dedans, il puisse y avoir des fonctionnaires, parce que par exemple, pour l'environnement, je suis en rapport depuis plusieurs années déjà avec une de ces organisations et le responsable de cette organisation est un universitaire, donc il a un poste de professeur dans une université. Il n'est pas tout à fait...
Mais c'est un membre de la société civile.
Mais c'est un membre de la société civile et c'est très intéressant parce que ça fait déjà 3-4 ans que je le connais et... Au début, son organisation, c'est lui qui l'a créée. Il avait été formé en Allemagne. Donc, il était très averti, à cause de son séjour en Allemagne, des problèmes d'environnement. Et donc, il a voulu faire la même chose en Chine. Et il y avait de quoi faire. Et au début, son organisation, elle était un peu, pas dissidente, mais un peu en opposition. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Il reçoit de l'argent du gouvernement pour l'aider. Mais parce que le gouvernement considère que des organisations de ce genre aident à faire prendre conscience des problèmes et donc à instaurer dans les populations des comportements qui respectent l'environnement. Si vous voulez, par exemple, apprendre aux Chinois de base que c'est formidable pour eux d'avoir des mouchoirs en papier. Ils peuvent se le payer maintenant, alors qu'avant, ils se mouchaient entre leurs doigts. Mais que le luxe, bien sûr, c'est d'avoir le mouchoir en papier, mais pas de le jeter n'importe où dans la rue. De le mettre de préférence dans une corbeille ou dans... et de ne pas le laisser comme ça dans la nature. De même pour les sacs en plastique. Pendant très longtemps, encore il y a 30 ans, le sac en plastique était une rareté en Chine. Enfin, on se le donnait, si vous voulez, c'était presque un cadeau. Bon, maintenant, comme chez nous, malheureusement, on a des sacs en plastique pour tout. Et les sacs en plastique, ils sont jetés sur le trottoir n'importe comment. Et il y a des malheureux, d'ailleurs, c'est une manière de résorber le chômage en Chine. Il y a des gens qui ont la mission de ramasser les sacs en plastique et ils ont des petites charrettes et puis après ça, on les retraite, etc. Bon, enfin, encore, c'est mieux de mettre les sacs en plastique dans une corbeille à papier. Toutes ces choses-là, si vous voulez, qui sont...
Une petite question avant qu'on revienne sur la sécurité alimentaire ou énergétique que cette question induit. Comment traduit-on environnement, justement, en chinois et ces questions d'écologie?
Mais il y a un mot très bien, huanjing, qui veut dire tout ce qui est autour.
Hein? Donc c'est une approche systémique.
Ah oui. Dans le vocabulaire chinois pour désigner tous ces problèmes, toutes ces notions... est tout à fait riche et tout à fait concret. Ce n'est pas du tout un vocabulaire théorique et nous sommes obligés d'emprunter au grec pour exprimer tout cela. Et beaucoup de gens maintenant ne savent pas le grec. Tandis qu'en Chine, on peut trouver des mots extrêmement parlants, précis, concrets, évocateurs pour parler de ces questions-là.
Alors, la Chine réfléchit probablement, comme d'autres pays, comme l'Inde, à de nouveaux modèles de développement.
Mais ce qui a été très significatif, à mon avis, c'est que bon, la Chine est un pays dirigé par un État, c'est un système d'économie très étatique encore. Et donc, elle a des plans quinquennaux qui, en principe, orientent le développement général du pays. Et surtout, les investissements qui sont consentis, qui dépendent toujours de l'État, pour la plus grande partie. Et dans son plan quinquennal 2006-2010, elle avait intégré toute une série d'objectifs concernant l'environnement, d'une part pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'autre part pour l'amélioration des ressources en eau, pour pousser à l'utilisation d'énergies renouvelables et encore toute une série d'objectifs concernant la reforestation, le respect de la biodiversité, la protection de l'environnement dans différentes régions, etc.
Donc son objectif là, c'est de réduire l'intensité carbone.
Et dans le nouveau plan quinquennal qui concerne les années 2016, il y a d'autres objectifs aussi. Et alors dans le plan 2006-2010, elle avait notamment affirmé qu'elle réduirait les émissions de gaz à effet de serre de 20%. Et les résultats qu'elle a donnés, c'était qu'elle est arrivée à les réduire de 19,1%, ce qui est quand même un très bon résultat, et je dirais supérieur à ce que font les pays occidentaux à la même époque.
C'est assez étonnant parce qu'il y a, il y a eu succès.
Le problème, c'est que c'est une réduction par rapport à, vous savez, il y a une mesure qui est celle des par unité de produit intérieur brut. C'est la quantité d'énergie que vous utilisez pour faire un point de produit intérieur brut. Donc, les Chinois sont arrivés à réduire de 19,1%, mais la quantité globale de gaz a malgré tout augmenté de 900 millions de tonnes parce que le développement est très important. Et donc, malgré les efforts pour réduire qui sont réels, et qui sont efficaces.
Voilà. La croissance
augmente ce volume. Donc, il faut arriver à aller plus loin.
Donc, l'objectif, alors, cette fois, il est de 40%.
Cet objectif est maintenant de 40% parce qu'on ne peut pas accepter que le montant global augmente. Et c'est par sens de la responsabilité mondiale, bien évidemment, mais d'abord par sens de responsabilité par rapport à la population chinoise. Parce que le nombre de maladies pour la santé publique qui est causé par la pollution dans l'air urbain, et maintenant il y a 60% de la population chinoise qui habite en ville, a beaucoup augmenté. Donc il y a un coût de santé, et puis pas simplement, enfin, c'est une question d'humanité. Donc on ne peut pas accepter ça. Mais l'idée que la Chine va ralentir sa croissance, alors ça, non. Et les Chinois, enfin le gouvernement chinois, et la population chinoise aussi, est absolument contre cette idée, parce qu'ils ont encore beaucoup à faire. Même si la Chine est le plus gros consommateur d'énergie au monde, la consommation par tête d'habitant, elle est 4 fois moins forte que les États-Unis. Donc les Chinois ne voient pas pourquoi ils se sacrifieraient pour que les Américains continuent à polluer ou que les Canadiens qui ont refusé, par exemple, tout récemment à Durban, de continuer à réduire leurs émissions de gaz carbonique, et les Canadiens aient le droit d'augmenter leurs émissions de gaz carbonique à gogo. Et ça se comprend. Donc, l'idée qu'on va réduire la croissance, non. Mais l'idée qu'on fait un effort accru pour une croissance plus propre, ça, c'est certain. Et des moyens considérables sont mis là-dedans.
Beaucoup, y compris des méthodes sont mises en place, d'évaluation, vous en avez parlé.
Il faut dire que, n'est-ce pas, l'appareil industriel chinois, qui avait été constitué depuis le début du XXe siècle, et puis avec un gros effort entre 1949 et 1980 quand même, avait été constitué à l'économie, et donc sans aucun souci de diminuer les pollutions industrielles. Donc, il y a un effort de restructuration de l'appareil industriel, c'est-à-dire qu'on change les installations. Il y a beaucoup d'usines qui ont été fermées. Par exemple, grosses aciéries du nord-est de la Chine, elles ont été fermées. Ça a causé du chômage en masse. Et on a reconstruit des aciéries plus propres.
Ça fait partie exactement de l'application des politiques d'évaluation que vous avez évoquées tout à l'heure, qui ont abouti comme ça, dans certaines régions, à des fermetures d'usines, ou alors aussi on a coupé le courant à certaines usines. Ça a dû avoir quand même des conséquences sociales importantes.
Non,
et
mais
même
y a
les
des
particuliers
conséquences sociales
peuvent
terribles.
Être inquiétés.
Donc, l'une des grosses causes de pollution, c'est la production d'électricité thermique. Parce que 75% de l'énergie chinoise provient du charbon et ces usines thermiques sont extrêmement polluantes. Alors, on a construit des nouvelles usines qui sont beaucoup moins polluantes que les précédentes, mais il en reste en fonction qui sont encore très polluantes. Et donc, il faut changer tout cet appareil industriel et puis essayer de trouver des procédés aussi qui diminuent les dioxydes de sulfure, les dioxydes de carbone, etc.
Et entre les régions de Chine, il peut y avoir aussi, non pas des accords ou des compensations.
Il y a des disparités terribles parce que, par exemple, la province, qui est une des provinces qui produit le plus de charbon, de métaux, etc., c'est la province du Shandong. Et du point de vue de la pollution, la province
du
Shandong.
Donc au nord de la Chine ?
Non, la province du Shandong, elle est au sud de Pékin. C'est le promontoire qui va dans le golfe du Pechili.
C'est pour ça que je parlais du nord pour moi, mais c'était...
Non. C'est dans la partie nord de la Chine, mais elle est extrêmement polluante. Et par exemple, les villes sont extrêmement polluées au Shandong. Et en plus, elle est sujette très souvent à des sécheresses. Elle a des problèmes d'eau. Et elle renacle beaucoup à appliquer les directives du centre parce qu'elle a une population très importante. C'est toujours été une province d'où il y avait de l'émigration. Et donc là, il y a beaucoup de difficultés. En revanche, Shanghai, qui est beaucoup plus riche, peut appliquer des normes merveilleusement. Et la ville de Ningbo, qui est au bord de la mer, au Zhejiang, c'est la ville la plus propre en Chine. Dans les évaluations, elle a 80 sur 100. Et sur 113 villes qui ont été notées, il y en a 13 qui ont plus de 50 sur 100. La moyenne, c'est 40 sur 100. Mais il y a 5 ans, la moyenne de ces villes, c'était 30 sur 100. Donc, il y a quand même un effort. Parce qu'on oblige les villes, il y a eu une loi en 2008 là-dessus, à publier leurs indices de pollution. Alors, elles renaclent à le faire. Mais elles le font maintenant. Et la ville de Pékin, par exemple, jusqu'au mois de janvier, ne donnait l'indice de pollution que en comptant les particules les plus grosses, celles de 10 microns, alors que normalement, on doit compter les particules de 2,5 microns. Si bien que les Pékinois, pour savoir vraiment l'état de la pollution, regardaient ce que disait l'ambassade américaine, qui avait, elle, un système d'observation conforme aux normes internationales. Alors, la ville de Pékin, quand même, s'est mise à l'unisson, et maintenant, elle donne des évaluations qui sont plus exactes. Mais le problème est considérable.
À long terme, les questions d'environnement posent aussi, et les problèmes de l'eau qui sont majeurs,
oui, posent
un problème de sécurité alimentaire certain. Est-ce qu'on imagine des scénarios catastrophes en Chine ?
Ces dernières années, il y a eu, on peut dire concurremment, des sécheresses épouvantables et des inondations épouvantables. Rien que l'été dernier, il y a eu une sécheresse terrible dans le centre de la Chine. Mais en même temps, il y avait des inondations terribles ailleurs où des gens sont morts.
Et on apprenait récemment l'assèchement d'un lac d'eau douce.
Alors, récemment, on a parlé d'un des grands problèmes dans le centre de la Chine, c'est que les deux très gros barrages qu'on a établis sur le Yangtze, à l'endroit où il y a ce défilé extraordinaire des Trois Gorges, il y en a un qui s'appelle le barrage de Gezhouba et puis l'autre le barrage des Trois Gorges, et qui produisent une quantité considérable d'électricité. Cette quantité d'électricité a complètement changé le niveau de vie, les possibilités de travail de gens dans tout le centre de la Chine. Ça a permis une hausse extraordinaire du niveau de vie. Et il ne faut pas oublier quand même, la Chine a sorti de la pauvreté plusieurs centaines de millions de gens. Et c'est grâce à ça. Mais, bien entendu, ces ouvrages titanesques ont complètement changé les conditions de l'environnement naturel. Et donc, on accuse ces barrages d'avoir accentué l'effet des sécheresses dans les régions
en aval.
D'avoir asséché ou diminué considérablement l'eau dans des grands lacs, le lac Boyang en particulier, qui se trouve en aval, et qui régule l'écosystème dans ces régions, et qui permettait à beaucoup de gens de vivre de la pêche
sans
ou de l'agriculture irriguée.
Sans compter que c'était un axe de circulation régionale d'une rive à l'autre.
Oui, c'était des étendues d'eau douce extraordinairement importantes pour l'économie des régions. Cela dit, de temps en temps, il y avait des inondations épouvantables. Il est très vraisemblable que les barrages jouent un rôle. Et surtout, ce qui a joué un rôle, c'est qu'on a surélevé de 15 mètres le barrage des Trois Gorges à un certain moment. Et à partir du moment où on a surélevé de 15 mètres, les conséquences en aval ont paru s'aggraver très largement. Alors, je pense que sur ces questions-là, les scientifiques chinois, qui sont très compétents là-dessus, et quand ils en ont besoin, se font aider par tous les scientifiques qu'ils peuvent trouver compétents ailleurs dans le monde. Ils n'hésitent pas. Ils vont étudier les questions et trouver des solutions. Parce que c'est grave et c'est inquiétant, parce que ça bouleverse l'existence des populations, puis aussi l'avenir. En ce qui concerne les ressources alimentaires proprement dites, l'augmentation de productivité de l'agriculture chinoise a permis dans ces dernières années, même avec les pénuries qui étaient la conséquence des sécheresses ou des inondations, de nourrir la population. Et la Chine a maintenant l'argent nécessaire pour acheter des céréales ailleurs quand elle en a besoin. La sécurité alimentaire de base, localement, elle peut être menacée. Bien sûr, il y a des régions où les gens n'ont pas beaucoup à manger. Mais à l'échelle globale, non. D'accord. Et quand même, l'amélioration des transports fait que les gens sont secourus, certainement mieux qu'ils ne l'étaient autrefois. Souvent, on voit des articles extrêmement alarmistes. Mais je pense que ce sont des questions sur lesquelles il y a beaucoup de Chinois qui sont très sérieux et très concernés et qu'on améliore les choses. Même s'il peut y avoir localement des situations graves ou scandaleuses, etc., dans l'ensemble, les questions sont prises en compte. Et on ne les abandonne pas au hasard.
Pour les problèmes de l'eau, on a évoqué...
Là, les problèmes de l'eau, là, sont très, très graves.
Voilà, on a évoqué le problème du barrage des Trois Gorges. Il y a une incidence du climat aussi sur la fonte des glaciers.
Oui,
qui va avoir vraiment
dans l'Himalaya.
Dans les glaciers du plateau tibétain qui, j'ai lu ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les eaux du Yangtze diminuent à la source, on va dire.
Oui.
Parce que le sol gelant brusquement ou davantage, il est plus perméable, il s'abîme plus vite et l'eau pénètre en profondeur. Mais du coup, le débit du fleuve diminue. Donc, ces problèmes de l'eau sont gigantesques. Est-ce que la Chine est prête à adopter un modèle de développement différent de celui qu'ont connu les pays développés? Est-ce qu'on va s'orienter vers des voitures électriques d'emblée? Est-ce que là, il y a déjà de la réaction? Des réactivités, des nouveaux modèles, des nouvelles idées.
Sur le problème de l'eau, je voudrais dire une chose, pour montrer la complexité des problèmes.
Oui.
Le gouvernement chinois a fait un investissement considérable pour reboiser la région où le Yangtze, le fleuve jaune et le Mékong prennent leur source.
Toute l'Asie, là.
Oui. Et c'est,
jusqu'à l'Asie du
Sud. Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le Brahmapoutre
et
le Gange, qui prennent leur source dans l'Himalaya. Mais le Yangtze, le fleuve jaune et le Mékong prennent leur source à peu près au même endroit. Et cette région-là avait été complètement déboisée par une utilisation extensive des pâturages par des bergers tibétains. Et le gouvernement chinois a donc mis de l'argent pour reboiser. Du coup, le gouvernement chinois a déplacé les nomades tibétains, ça représente 50 000 personnes, et vous imaginez les problèmes que ça représente. Parce que quand on fait ça, aussitôt, il y a un tollé en disant le gouvernement chinois maltraite les Tibétains. Donc les problèmes, souvent, sont considérables. Et de par ailleurs, les pays du Mékong accusent la Chine de retenir les eaux du Mékong et de les empêcher d'avoir détruit leur écosystème en aval. Donc il y a des problèmes à la fois internes et internationaux très graves. Maintenant, le modèle que la Chine semble vouloir mettre en œuvre dans son plan économique actuel, c'est quand même, de même que pour le plan précédent, c'est quand même un modèle qui est beaucoup plus attentif aux questions d'environnement que ces modèles précédents, que tous les modèles de l'Union soviétique, et je dirais que les modèles d'industrialisation qui n'étaient pas planifiés, qu'a suivi l'Europe occidentale au XIXe siècle, au XXe siècle, les États-Unis encore plus. Donc, il y a une attention à ça et un investissement considérable dans la recherche pour trouver des systèmes d'économie d'énergie et des systèmes plus propres d'industrie. Alors, vous me parliez des voitures électriques. Moi, ce qui m'a été un crève-cœur quand la Chine s'est ouverte et a commencé à se développer au début des années 80, c'était de voir que le gouvernement chinois autorisait les voitures individuelles, alors qu'ils auraient très bien pu les interdire et que ça aurait évité la pollution. Et comme bon, je connaissais bien les Chinois, je me suis dit que ça va être pire que les Français. Ils voudront tous avoir leur voiture. Ça n'a pas manqué d'ailleurs. La vérité, c'est que le gouvernement pouvait lever des impôts très facilement sur les voitures. Donc c'était une des raisons. Alors maintenant, on est passé au vélo électrique. Hein. Les vélos sont électriques, les motos sont électriques. C'est d'ailleurs très dangereux parce que...
Ça ne fait pas de bruit.
Ah, ça ne fait pas de bruit.
Mais ça
les accidents sont nombreux. Hein. Et vraiment, c'est assez dangereux. Les voitures électriques, à l'exposition universelle de Shanghai, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. C'est une voiture dont tout le toit était couvert de cellules photoélectriques. Je n'ai pas vu la voiture fonctionner. Je ne sais pas si ça suffit à faire avancer la voiture. Mais certainement, la voiture électrique se développera. Parce que dans les villes, 50% de la pollution atmosphérique vient de la circulation des voitures. Et c'est de pire en pire. Hein. Donc certainement, ce sera augmenté. Mais il y a un gros investissement sur les énergies renouvelables. Mais malgré tout, à l'horizon 2030 et 2040-50, la Chine ne prévoit pas de pouvoir suffire à ses besoins énergétiques au-delà de 20% par les nouvelles énergies. Bon, il y a quand même une part importante de l'énergie hydraulique qui entre en jeu, et l'énergie hydraulique est renouvelable en principe dans la mesure où on garde encore de l'eau. Hein. Mais par exemple, pour les éoliennes, elle a développé, mais c'est récent, des parcs offshore dans la province du Jiangsu, c'est-à-dire la province où se trouve Shanghai. Et elle prévoit d'augmenter ces éoliennes. Bon, il y a des éoliennes aussi dans les déserts.
Donc là, la Chine suit ce que le reste
oui,
du monde fait.
Oui, mais elle a trouvé des perfectionnements. Si vous voulez, elle investit dans la recherche là-dedans.
Voilà. Est-ce que déjà il y a des choses qui émergent?
Et elle a trouvé des perfectionnements. Elle prétend, du moins, je n'ai pas été voir sur place, etc. Mais je ne sais pas ce que les Allemands en disent. Mais elle a eu l'aide d'experts allemands, parce que c'est les Allemands qui sont très experts là-dessus. Mais elle prétend avoir trouvé des choses encore mieux que les Allemands. Et puis, dans l'énergie solaire, enfin le photovoltaïque, elle a trouvé des piles qui sont... Elle est tout à fait en pointe dans le commerce des piles photovoltaïques. Elle a trouvé des systèmes meilleurs. Donc là-dessus, elle a beaucoup développé et elle investit là-dessus. Donc, il n'y a pas de doute, il y a des secteurs sur lesquels elle améliore les choses. Mais malgré tout, elle mise sur le nucléaire.
Hein. Aussi.
Ah oui, oui, oui.
Et ça survit
elle
pas
a
aussi 20, par là.
Plus de 20 centrales nucléaires en construction. Elle ne peut pas s'en passer. Parce qu'elle n'a pas la place de mettre autre chose.
Alors, une dernière question, Marianne Bastide-Bruguière. La position de la Chine dans les négociations internationales sur le climat va forcément changer, puisque d'abord, elle est à la fois aux premières loges en tant qu'acteur, en tant que principal pays émetteur de CO2, mais aussi principal pays investisseur dans la recherche pour trouver des solutions. Au-delà des fonds d'investissement de l'Europe, des États-Unis, oui. Ce qui est quand même nouveau et un signe. Donc, est-ce que cela va lui permettre de se positionner de façon principale, enfin d'une façon originale, dans ses prochaines conférences sur le climat ou ailleurs? Est-ce qu'elle peut entraîner dans son sillage l'Inde? Voilà, là, elle ne va pas peser d'un poids...
Je pense qu'elle est de plus en plus active
comme autrefois
dans les négociations internationales. C'est-à-dire qu'on se souvient qu'à Copenhague, elle avait fait très mauvaise impression, parce qu'elle avait aidé à chavirer complètement l'affaire et l'Union européenne avait été furieuse. À Durban, elle est venue en voulant soutenir les choses. Et elle a été déçue par le comportement des pays occidentaux, en particulier du Canada, qui, à cause de la crise, ont reculé dans leurs engagements climatiques. Et la position de la Chine est fermement affirmée maintenant. C'est responsabilité commune. Elle est prête à endosser des responsabilités communes. Mais, dit-elle, et quand même on ne peut pas lui en vouloir... différenciés. C'est-à-dire que selon l'état économique des différents pays et leur population, leurs problèmes particuliers, les normes ne doivent pas être uniformes. Et ce qu'elle refuse absolument, c'est qu'on lui impose les normes décidées par l'Union européenne, alors que l'Union européenne, pendant des décennies, a émis du carbone tant et plus. Bon. Et ça se comprend. Mais cela dit, elle est prête à faire des efforts, elle les fait. Et elle veut que l'action en matière climatique soit faite dans le cadre des Nations Unies, de manière à ce que tous les pays du monde soient impliqués. Et ça, c'est plutôt bien. Et d'autre part, elle agit aussi du point de vue régional. Elle tient régulièrement des réunions avec les pays du Sud-Est asiatique et aussi avec l'Inde, le Bhoutan, le Pakistan, etc., notamment pour la gestion de la biodiversité dans l'Himalaya, les questions des ressources en eau, et puis de la politique générale pour tenir, parce que c'est l'Asie des moussons. Hein. Et donc, il y a beaucoup d'actions qui peuvent être solidaires. Et elle agit beaucoup dans ce sens. Donc, son activisme en matière climatique, je trouve, est accru. Et d'autre part, elle a commencé déjà à apporter de l'aide à des pays en voie de développement en Afrique pour résoudre leurs problèmes de pollution avec des projets tout à fait intéressants, des petites usines hydrauliques ou bien des petites usines pour traiter les déchets, pour traiter la pollution. Donc il y a une implication, une responsabilité réelle et je pense qu'il n'y a pas à s'en moquer. Bon, de temps en temps, elle peut avoir des réactions très dures et très tranchées. Mais l'engagement, à mon avis, est total. Parce que le changement climatique, ça rend malade pas simplement le Chinois de base, mais aussi les enfants des dirigeants qui habitent à Pékin. Donc, c'est tout le monde qui est inclus.
Donc on peut dire que ces questions de développement durable ont été intégrées à long terme intégrées maintenant. Partout bon, en
alors,
Chine.
Alors régulièrement, sous les objectifs économiques, il faut qu'on augmente notre production, il faut que nos gens vivent mieux. Et souvent c'est en contradiction avec la sagesse climatique, mais malgré tout c'est pris en compte.
Merci Marianne Bastide-Bruguière pour votre éclairage sur la Chine et les questions d'environnement et toutes ces questions d'équilibre entre la croissance et les besoins en énergie, les besoins en alimentation et la sécurité aussi sanitaire qu'on a évoquée au début de l'émission. Merci beaucoup.
Merci.